écoutez Dig Dig Diggers, l'émission des radios Ferrarock. Cette semaine, nous retrouvons Jordan de Radio Méga qui s'entretient avec Manon Cossignac, co-réalisatrice de La Cantatrice, Chaume, une trilogie de documentaires sur les femmes dans les musiques actuelles. Une carte blanche à retrouver en fin d'émission. Avant cela, Marcus de Radioactive nous emmène dans les coulisses du festival Art Rock de Saint-Brieuc pour rencontrer le trio malgache Loharano et en apprendre davantage sur leur nouvelle EP Ben Uzi, sortie le 26 mai chez Vicer Records. Mais commençons par vous présenter The Future is the End, premier album des Canets de Cemented Minds, sorti le 19 mai chez Floral Records. Seb, de la radio 666, a pu rencontrer le groupe après son passage au Big Band Café à Hérouville, c'était le 25 mai dernier.
Salutations auditoristes des radios Ferrarock, on se retrouve aujourd'hui avec les Cemented Minds pour discuter de leur nouvel album The Future is the End. Un titre qui rappelle le No Future de la fin des années 70, énergie post-punk à la fois révoltée par le monde qui nous entoure mais également terrassée par l'impuissance de l'individu face à ses propres démons. Nous nous retrouvons ici avec de charmants jeunes hommes, les Cemented Minds, esprits cémentés qui ne les caractérisent en rien mais qui définissent ceux vers qui leurs textes se dirigent.
C'est des morceaux qui font partie de la même session d'écriture amorcée depuis 2016 en fait.
Camille, guitariste.
Ils ont juste été finalisés un peu plus tard.
Mais par exemple, le premier morceau d'ouverture, c'est certainement un des plus vieux qui existait déjà à l'époque de Colostrum, mais qui n'était pas dans un format définitif parce qu'on n'avait pas encore calé de paroles dessus, mais il était vraiment déjà très abouti, donc il aurait très bien pu finir sur Colostrum, mais on avait fait en sorte de garder une dynamique sur Colostrum. Avec des morceaux plus calmes et des morceaux plus énervés pour pas griller toutes nos balles et arriver à avoir quelque chose d'aéré qui s'écoute facilement. Du coup, je pense que c'est dans la continuité de Colostrum. Après, vu que le Covid est passé par là, on a eu plus de temps pour réarranger les morceaux, en jeter à la poubelle et puis travailler un peu plus l'écriture, je pense, de certains passages. Donc peut-être que l'album, il a l'air un peu plus... travaillé et produit grâce à ça, mais sinon c'est une suite complètement logique au travail amorcé ensemble. Et puis on jouait déjà The Key to Nothing et Sharp Attack à la tournée de Colostrum. Donc ouais, c'est un peu un tout, les deux fonctionnent ensemble je pense.
L'approche avec le label s'est faite à quel moment justement? Sur l'EP directement ou un peu après et...
Ouais, bonne question, ça a dû se faire il y a... Ouais non, ça doit dater même d'il y a 3 ans. Okay. Ponce nous avait demandé s'il pouvait utiliser At The Crack Lane, voire d'autres morceaux de Cemented Minds pour ses lives sur Twitch, dans ses intros, des choses comme ça. Il avait besoin de morceaux qui étaient libres de droit en soi, donc il aurait pas eu besoin de payer de la SACEM par exemple, je pense. Pour diffuser ça, et on lui avait dit que c'était carrément ok et que c'était cool s'il pouvait utiliser ces morceaux-là, ça nous est que de la pub en fait. Et finalement, chemin faisant, il y a eu cette idée de faire un label on en a entendu parler, on va dire, peut-être en début d'année 2022. Et le plan, c'était d'abord de concrétiser la création de ce label-là avec le live au Bataclan. Donc avant toute chose, on avait le projet du Bataclan et nous pendant ce temps-là on avait cette idée de faire un disque quoi, et donc logiquement Floral coproduit le disque avec nous
ils vont beaucoup travailler sur tout ce qui va être pressage, merchandising, diffusion. On a grâce à eux une attachée de presse incroyable qui nous a donné une couverture médiatique qu'on n'aurait jamais pu espérer, quoi. Et un gros travail aussi, j'imagine, d'édition dans le futur qui va se faire grâce à Floral, où l'idée c'est de nous avoir sur d'autres formats. Ça couvre plein de choses auxquelles nous on pense pas et qu'on maîtrise pas, et c'est juste complètement inespéré du coup comme chance d'avoir ce label là qui nous soutient et qui nous pousse. Et ce qui est vraiment encore plus incroyable, c'est qu'on vient de la même scène, un peu do it yourself. Donc on parle le même langage et c'est très proche au final de la manière de faire d'un micro-label DIY. Et on est dans une coprod, donc c'est-à-dire qu'on avance les mêmes billes. Nous on a payé tout ce qui est enregistrement par exemple. Et eux de leur côté avancent à peu près la même somme et on récupère les billes 50-50. Donc c'est vraiment pas du tout la manière de faire d'un label indépendant, donc nous ça nous va complètement.
Moi, globalement, je pense que
Marsoin, batteur,
toute la communauté justement de Ponce et que même les gens qui sont autour de Floral Records, c'est des gens qui sont assez jeunes. Il y a, on est autour d'une moyenne d'âge qui est entre 20 et 30 ans dans ces eaux-là, quoi. Et on est dans une clairement dans un contexte générationnel qui date de dernièrement, quoi, des millennials et des Gen Z. Et c'est une génération qui a l'air d'être extrêmement touchée par tout ce qui est justement des problèmes de d'une part santé mentale, d'autre part de le gouvernement qui se met à faire des trucs que nous on comprend pas et en nous prenant pas en compte, et que c'est d'autres gens beaucoup plus vieux qui décident à notre place, et puis énormément de progression sociale qui viennent, qui repartent avec beaucoup de gens qui se rebellent dans tous les sens du terme. Je pense que globalement le fait de pas savoir où on est et de pas comprendre ce qui se passe autour de nous alors qu'on a juste envie de vivre sa vie un peu tranquillement, c'est une problématique que énormément de gens de cette génération ont l'air d'avoir, je pense. C'est pas pour rien qu'il y a eu un énorme revival du post-punk ces dernières années, à mon avis, quoi.
Justement, revenons sur ce titre, The Future Is The End. On est même au-delà du No Future des punks, qui en fait ne caractérisait plutôt qu'un rejet du futur qui leur était proposé.
C'est ça, ouais.
Y avait alors pas que là c'est vraiment la fin, quoi.
Ouais, non, il y avait cette idée qu'ils pouvaient pas se projeter dans la société qui leur était offerte, effectivement. Et là pour le coup ça, c'est un peu plus en lien avec la collapsologie, où on voit gentiment notre société s'écrouler, tout le monde est là, ouais non mais on va droit dans le mur, faut faire quelque chose, et tous les vieux blancs qui nous dirigent sont là, ouais bon nous on en a rien à cirer, ça va être tranquille, on y va carrément à fond.
De toute façon, quand ça se finira, on sera tous morts, alors bon.
Ouais, carrément, il y a cette fracture-là, et je pense que The Future Is The End, c'est un peu notre no future à nous. T'es peut-être même plus bouddhiste que nihiliste, parce que en soi, c'est complètement indéniable, quoi. On a une finitude d'humains, quoi. On est limité par ça. Donc, je le vois même pas spécialement comme quelque chose de négatif, au final, mais quand Arnaud avait trouvé ce titre de disque, on était mort de rire, en fait, parce que ça résumait juste complètement plein de choses en même temps. Et il y avait ce côté
un peu doux amer, je pense, qui caractérise notre écriture.
Ouais, puis en plus, pour le nihilisme, un peu comme ça, il y a plusieurs manières de le voir. Il y a le côté ah bah tout va se terminer, rien n'a d'importance. Oh non, c'est horrible et tout ça. Mais il y a aussi le côté tout va se terminer, rien n'a d'importance. Ouf. J'ai plus de pression, je fais ce que je veux, tranquille.
C'est clair.
On peut vivre notre vie, du coup.
On peut justement faire le lien avec vos prestations scéniques, Arnaud. D'où ça vient, ça, ce smile, alors que justement, bah, on traite de sujets pas forcément très reluisants.
Bah parce que je suis trop content d'être là à chaque fois. Enfin, c'est trop bien, c'est trop la fête pour moi. Je suis avec mes potes sur scène, du coup, c'est incroyable. Et du coup,
Arnaud, chanteur.
La musique prend tout son sens quand on est là et.
Dernière teuf avant la fin du monde.
Bah ouais, c'est comme si c'était la dernière à chaque fois en fait. Il va y avoir le.
C'est la danse fatigue. Autour du feu.
Ouais. Mais oui, c'est la danse autour du feu, c'est clairement ça.
C'est vrai que ça fait une dichotomie, mais je pense pas que ce soit un contresens. Mais... Je pense qu'on a un peu le smile et clown en vrai, ouais. Ce groupe.
Seventeen Minds, c'est pas votre première expérience musicale. Vous avez d'autres groupes, que ce soit en parallèle ou par le passé. Comment s'est fait d'une part votre rencontre et ensuite la construction du son de Seventeen Minds ensemble?
On s'est retrouvé à faire. J'ai proposé à Camille de remplacer un guitariste dans un groupe de grind que j'avais qui s'appelait Undit.
Pierre, bassiste.
C'est la première collab qu'on a fait, tous les deux, si je dis pas de conneries. Camille m'a fait écouter ses maquettes secrètes de son projet. Moi, du coup, je travaille au Big Band Café, à l'accompagnement, au développement des groupes et tout. Donc, il voulait mon oreille professionnelle sur ses maquettes. C'est super, ces maquettes. Donc, après, oui, les mois sont passés. Le casting, entre guillemets, s'est fait. Je me suis proposé, Camille m'a proposé, ça s'est fait comme ça.
Je croyais que ça s'était fait un peu plus naturellement parce qu'on était en train de manger des M&M's en essayant d'écrire des chansons pour Undit.
Oui.
Et à ce moment-là, vous m'avez demandé, mais toi, tu fais des choses sur ton ordi. Et c'est juste comme. Je pense que j'avais même pas envie d'avoir un avis professionnel sur les maquettes. Vous étiez juste curieux. Et d'ailleurs, à la base, j'étais là, non, mais vous allez peut-être pas aimer, c'est peut-être trop pop.
Marsouin ? Toi, oui. Ton arrivée dans le groupe est un peu particulière parce que tu es arrivé après la guerre de The Future is the End et là tu le joues sans y avoir contribué au niveau de la réalisation. Comment ça s'est passé?
En fait, la manière dont moi je suis arrivé dans le projet, c'était via Pierre, du coup, qui me connaissait d'un autre projet, pour lequel à un moment j'ai dû prendre la batterie alors que j'étais pas batteur dedans et que j'ai dû apprendre un set en urgence. Du coup, au moment où il a fallu apprendre un set en urgence pour Seventeen Minds avant le Bataclan, on était déjà potes et enfin voilà quoi. Donc forcément, il m'a proposé et puis ça a matché. À la base, j'avais déjà trop de groupes parce que j'ai toujours trop de groupes et j'en ai toujours trop de groupes hein, d'ailleurs actuellement là. J'avais dit que du coup je comptais pas rester dans le projet, mais au final ça s'est tellement bien passé que je me suis demandé c'est cool quand même. Et puis j'avais l'habitude d'être dans le genre de projet où je fais tout un peu, je compose tout, j'écris tout, je fais toute la prod, je fais tous les trucs. Et en fait il y en a déjà un comme ça dans le groupe, c'est Camille, donc donc en fait je me suis dit j'ai pas besoin de faire tout, je peux juste jouer de la batterie et être avec des gens cool qui font des trucs sympas et c'est bien. Et c'est cool parce que moi de base je viens vraiment pas justement de cette scène punk DIY tout ça. Moi de base je viens vraiment du prog en fait, la scène progressive, les trucs plus pas plus modernes mais qui ont une vision un peu différente quoi. Et au final ça me fait rentrer dans un monde que je connais pas et c'est une découverte hyper chouette quoi, avec une communauté qui est très présente et qui est tout le temps à fond. Et c'est cool parce que j'ai pu apprendre assez vite à m'approprier un peu toutes ces parties de batterie parce qu'au final j'avais la technique qu'il fallait pour pouvoir jouer tout ça très vite. Mais voilà quoi, j'ai pu un peu comprendre ce qu'il fallait pour ce projet là, comment est-ce que le songwriting était structuré, comment ça se construisait, comment est-ce que je pouvais moi mettre des trucs qui faisaient partie de mon style en tant que musicien sans que ça dénote trop et que ça colle dedans et tout. Et du coup je commence là à comprendre un petit peu ce que je peux me permettre ou pas et c'est vraiment intéressant. Du coup j'ai hâte de voir des prochains morceaux qui pourront se faire, dans lesquels je pourrais faire des parties quoi. Il y a moyen que ça soit intéressant en fait. C'est un peu du Less is More, pas mal dans Seventeen Minds à la batterie. C'est le côté quand on est en concert, il y a un ou deux passages dans des morceaux à droite à gauche où je mets la purée pendant une mesure et en fait ça marche hyper bien parce que en fait je suis tellement sur l'autoroute tout du long que si je balance la purée sur un moment, il y a tout le monde qui pète un câble en mode ouah, on se prend un gros truc dans la gueule, un gros parpaing et ça marche bien quoi.
peut parler de Too Fast déjà, c'est le premier morceau du disque, c'est un des plus vieux morceaux, qui est, enfin l'instrumental en tout cas est vraiment quasiment terminé à 90% en 2016.
D'ailleurs, j'en profite pendant que tu cherches de préciser que effectivement Too Fast, c'est comme ça qu'on l'appelle, mais que le morceau s'appelle Too Fast, Too Close, Too Late.
Ouais.
C'est ça. Ouais. On a pas mal de titres à rallonge comme ça.
Ouais. Raccourcis. Ça a été peut-être un peu remanié depuis avec des longueurs sur certains passages et tout, mais globalement, il a été écrit un peu d'une traite au moment où je commençais à penser à ce projet-là, quoi, avec Arnaud. Le chant s'est fait au dernier moment. Tu veux en parler, Arnaud ?
Au dernier moment ? Qu'est-ce que t'appelles le dernier moment ?
Est-ce que c'est la veille ou le matin même ?
Le matin même pour enregistrer à 10h.
Donc ouais, un travail de fond, de longue haleine qui s'est étalé sur plusieurs années.
C'est dans la douleur qu'on fait des trucs cool pour le coup, c'était trop bien ça.
Ouais, du coup grosse douleur ce morceau pour l'enregistrer. Enfin, le disque globalement était assez éprouvant pour Arnaud à enregistrer. Et Too Fast, étrangement, c'est un morceau... qui est plus vénère que la plupart de ce qu'on fait habituellement.
Premier morceau de l'album, mais dernier morceau que vous jouez en live.
Ouais, carrément. Mais on était, on s'est posé la question, parce que jusque-là, on commençait nos sets avec Allo Rave. Ça nous permettait de nous mettre en jambes. Je pense qu'en termes de chant, pour toi, Arnaud, c'est plus confort. Et puis, ça se met aussi gentiment en place, quoi. Et puis, il y a cette amorce de batterie patate, donc ça collait parfaitement à début de set. Et on a décidé de le garder au final parce que ça nous va très bien comme ça. Et c'est vrai que Too Fast, on a l'impression que le morceau a une place un peu spéciale, quoi. Donc on lui réserve le grand final. Ça permet vraiment de monter en climax et de terminer sur cet accord et puis qui résonne jusqu'à la fin. En Larsen, je pense que ça nous va très bien comme ça.
Mais le riff de guitare, c'était aussi le riff que tu utilisais pour l'entrée de Pierre en répète ?
Non.
Ah, c'est pas... Ah, pardon.
Sharp Attack,
ouais. Ah oui, c'est Sharp Attack, pardon. Ouais.
Parce qu'à une époque, je tombais en rentrant dans le local de répète, il y avait une espèce de marche et je la prenais à chaque fois.
Et du coup, je faisais un thème musical un peu à la Beverly Hills, comme si c'était l'entrée d'un personnage hyper drôle sur le plateau, genre « Pierre !» Et c'est, du coup, le thème de Beverly Hills, c'est quelque chose genre « Et donc ces deux notes-là, qui au final sont déjà hyper utilisées, y compris par Falls, sur... Du. Je crois que c'est ça. Et donc, grand classique de Beverly Hills et de Falls. Et en fait, on en a fait une chanson, tout simplement. Avec un riff à la Pixies sur le thème principal. Et puis, il y a même des arpèges à la Pixies, au final, sur le couplet. La manière dont ça se développe, ça fait très Pixies. Ouais, c'est vrai, ouais. Un solo à la Nirvana, où je fais juste... je reprends juste la ligne de chant.
C'est ça, effectivement, avec beaucoup de notes qui sont les mêmes, ouais. Comme ça.
Et un pont qui se déconstruit à la batterie, dont l'idée vient de Ocean Circles, un groupe post-hardcore, post-rock. Et il y a ce côté-là, comme ça, où il y a un pattern de batterie qui tourne, et petit à petit, t'as des éléments qui se dégagent du pattern, jusqu'à garder que la caisse claire qui fait ta-ta-ta-ta, jusqu'à ce que ça repète avec l'ensemble des instruments. Donc ça, c'est pour notre héritage hardcore. On s'en défera pas, je pense.
Mais ouais, et puis c'est rigolo parce que du coup le morceau Sharp Attack Gentle Decay, du coup c'est ça fait vachement truc d'effet de pédale en fait ou de.
Ouais, ouais, ouais. Et ben en fait ça c'est un terme que j'avais trouvé non, mais que j'avais vu en regardant ce programme de Leonard Bernstein. Où il faisait de la vulgarisation de théorie musicale pour les enfants avec un orchestre et c'est genre complètement génial et il y a plein d'épisodes de ce programme là qui doit dater des années 50 ou 60 je crois, c'est... non c'est plus tard, ça doit dater de la fin des années 60 parce qu'il parle des Beatles mais c'est en noir et blanc il parle de ce moment là Sharp Attack Gentle Decay, c'est quand t'attaques une note très fort et que tu la laisses un peu s'évanouir, et c'est complètement ce que je fais tout le temps à la guitare en ce groupe-là. Si t'écoutes At The Crack Lane, c'est que des accords comme ça, et puis qui s'évanouissent avec des torsions de manches, dans du délai, dans de l'écho. Donc il y a un côté un peu méta dans ce titre-là, mais aussi qui fait référence à la collapsologie, ce côté-là. On va tous mourir, c'est la fête.
On est parti très très vite, et on va s'écrouler petit à petit dans nos cendres.
We'll be right back.
The Future is the End, sorti sur toutes les plateformes d'écoute le 19 mai 2023 sur le label Floral Records.
Explosion. Dans la suite de ce numéro, nous retrouvons Marcus de Radioactive dans les coulisses du festival Art Rock de Saint-Brieuc, durant lequel a pu se produire le groupe malgache Loharano. Occasion pour eux de revenir sur leur dernier EP, Benoussi, sorti le 26 mai.
Alors moi c'est Malia, je suis la guitariste du groupe, ouais, et chanteuse.
Yo, moi c'est Natina, batteur et batteur, ouais.
Hello, moi c'est Mickaël, je suis bassiste.
On se souvient de vous au Transmusical, vous nous aviez étonné, vous aviez étonné votre monde. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ce fameux concert qui était une révélation pour beaucoup de personnes ici en Europe de vous découvrir au Transmusical?
Ben, en fait, c'était, excuse-moi, c'était assez sympa parce que ça nous a ouvert beaucoup de portes, en fait, puisque c'était vraiment notre première sortie à l'international et pouvoir booker des dates vraiment, surtout en France, mais aussi en Europe, comme quoi, la semaine dernière, on était en Angleterre pour le festival Focus Wales et on a eu plusieurs dates issues de ce festival, quoi. C'est super pour la carrière qui, disons, démarre. Et jusque-là, on a même signé avec Rage Tour, qui est un super tourneur. Et voilà, jusque-là, ça évolue plutôt bien.
Vous nous étonnez à chaque fois avec votre musique et votre dernier EP qu'on a célébré toute cette semaine sur les radios de l'Affaire Rock. Nous étonne encore plus parce que vous arrivez à nous montrer que à la fois le métal, mais pas seulement le métal, le rock, une certaine attitude, le côté progressif, la progression de la voix aussi. Enfin, il y a plein de choses que vous faites avec beaucoup de force et vous le refaites avec sur cet EP aussi fort que le premier album. On sent que vous réfléchissez à votre musique, c'est ce que je veux dire.
Cette EP qui s'appelle Benous, en fait, elle représente beaucoup notre, ce qu'on ressent dans notre pays et le côté, comme tu as dit, progressif, c'est le côté vraiment malgache de ce qu'on fait. Oui, on fait du métal, du rock, mais très mélangé à nos origines, quoi. Ouais. Et c'est ça en fait qui fait que on s'exprime par rapport à tout ça, par rapport à nos origines, en fait, par rapport à ce qu'on vit là-bas aussi, bien enragé.
C'est un pays enragé, un petit peu Madagascar quand même, et ça on s'en rend pas forcément compte. On a toujours une image de cette petite sœur de l'Afrique qui est juste à côté du continent, et pourtant qu'est-ce que vous avez comme rage, et on la retrouve cette rage à travers votre musique, quoi.
Ben en fait, franchement, il n'y a rien qui va dans le plaid et ça, c'est... Il y a tout le monde qui le vit, en fait. Et nous, particulièrement, on a eu un peu la chance de faire de la musique et pouvoir s'exprimer de cette manière parce que là-bas, c'est... Si t'es pas un artiste ou quelqu'un d'engagé, en fait, t'as pas vraiment les moyens de parler, quoi. Et les manifestations, on ne peut pas les faire parce que tu risques d'aller en tôle pour rien, des trucs comme ça. Et c'est vraiment pour nous une occasion de pouvoir, en quelque sorte aussi, représenter ce que vive notre communauté et de pouvoir le crier bien haut, bien fort. Putain, on en a marre, les gars. Il faut que ça évolue un peu parce que là, on régresse à chaque fois et c'est chiant, quoi. Voilà.
Le rock, ça reste un message politique, du coup, quoi.
On fait pas ça vraiment pour un message politique, mais jusque-là, c'est particulièrement une cause prioritaire et majoritaire de ce qui nous arrive. C'est pour ça qu'on en parle un peu souvent, mais il n'y a pas de limite, en fait. C'est de la musique, quoi.
Et cette musique, vous l'assumez très bien. Il y a quelque chose qui est quand même singulier chez vous, c'est que vous êtes un trio et vous avez quand même une chanteuse, quelqu'un qui en front, une guitariste. Moi, j'ai envie de savoir comment t'es perçue, toi, à Madagascar, toi, en tant que chanteuse, en tant que guitariste, en tant que... J'ai pas envie de leader, mais parce que vous êtes... On sent que c'est un groupe très démocratique, il n'y a pas de problème. Comment t'es regardée là-bas ?
Surtout au début, ça a été un peu difficile par rapport à la société. En tant que femme, rockeuse et malgache, c'est tout le temps mal perçu au début. Mais en fait, au fil du temps, j'ai réussi à m'en foutre, quoi. Enfin, ouais, parce que au final, j'assume. En fait, je m'en fous. Je m'en fous en ce moment. C'est peut-être toujours mal perçu, mais j'entends moins de voix qui dit voilà. Et en gros, voilà quoi.
Chose que je voulais dire aussi, c'est que votre rock'n'roll, il a quelque chose de formidablement original, et je suis très sincère en le disant. C'est-à-dire que ce que vous faites, et il y a plein de branches, il y a plein de musiques, il y a plein voilà, d'influences qu'on peut décrire, on peut citer des groupes. Vous avez une véritable originalité avec Loharano, et moi, c'est ce que j'aime beaucoup depuis votre premier album. Ça se retrouve sur l'EP aussi, hein. Vous avez gardé une certaine veine, une continuité dans votre travail, mais... moi, je pense aux Stooges quand je pense à vous. Vraiment, je pense à des Stooges, je pense à MC5, je pense à vraiment ces groupes-là qui, à la fois, sont des groupes de rock'n'roll et en même temps des groupes qui sont hors sol, hors normes, qui sortent des sentiers battus. Ça vous va ?
En fait, nous, par rapport à comment on compose et tout ça, c'est plutôt s'il y a eu un genre de musique qui s'est créé. C'est surtout par rapport au créateur, il a eu peut-être, dans le rock par exemple, il a eu base blues, je sais pas, blues, twist, je sais pas, quelque chose comme ça. Et nous, dans notre rock, on a aussi un peu cette manière, mais on a nos bases à nous, tu vois. Et nos bases à nous, c'est surtout la musique de Madagascar. Mais le côté rock, en fait, c'est ce qu'on a en commun, c'est le fait que ça, ça soit exprimé avec la rage, en fait. C'est ce qui fait qu'on fait du rock aussi, mais on n'est pas forcément dans ce cliché de ouais, il faut sonner blues, ou dans le métal, il faut sonner classique et blues, tu vois. On n'est pas du tout dans cette formule-là, mais en fait, la rage, on la partage parce qu'il y a chacun qui lutte pour une cause, pour sa cause, et voilà, c'est notre truc à nous, quoi.
Après, à chacun sa personnalité, quoi. Les gens, ils sont tous différents. Et nous, en fait, ça fait notre force, cette différence. Parce que même nous trois, dans le groupe, on est très différents. On n'écoute pas forcément les mêmes choses. Mais c'est la différence, en fait, qui fait la force. Et on trouve ça cool d'être différent, quoi, en fait. Parce que tout le monde, c'est cool d'être différent parce que ça fait un tout.
C'est ce qui m'avait marqué, ce que tu dis au trans, quand on s'était rencontrés la première fois, c'est que je sentais qu'il y avait vraiment trois personnalités différentes et qui s'unissaient pour un projet, c'est Loirano. Rappelez-nous ce que ça veut dire Loirano quand même.
Loirano, c'est source, et tout le monde est source, source de pensée créatrice, de vie, de tout, quoi. Enfin, c'est nous qui faisons le monde, c'est nous qui façonnons notre monde. Et source, tout le monde est source, et tout le monde peut être source, mais il suffit juste de s'en rendre compte, en fait. Voilà.
Ouais, c'est comme elle l'a dit, tout le monde doit être conscient que c'est une source en soi, que le monde est comme ça parce que c'est comme ça qu'on le façonne, en fait. Et c'est à nous de voir si on est une source, une bonne source ou pas pour notre monde, quoi. Qu'est-ce qu'on va léguer à la prochaine génération d'humains et tout ça, tu vois. C'est un peu l'essence du groupe, en fait. Et aussi, par rapport au fait de respecter la source, c'est pour ça qu'on met aussi en avant la musique de chez nous, parce qu'on respecte beaucoup aussi ce que nos ancêtres nous ont laissé. Et c'est pour ça que c'est pour mettre en valeur tout ça.
On sait qu'à Madagascar, le culte des ancêtres, enfin le culte, ce qu'on appelle le culte des ancêtres, en tout cas que les ancêtres, on sait que par exemple les personnes qui sont parties restent aussi dans les familles, ça peut arriver, ça, ce genre de choses. Est-ce que c'est quelque chose qui est important qu'on peut inscrire dans la musique et qu'on retrouve dans votre musique, peut-être même sans le savoir finalement?
En fait, chez nous, justement, les personnes qui ne sont plus là, c'est les Razan, les ancêtres, quoi. Et on apporte, dans notre culture, on apporte beaucoup d'importance à ces gens-là, puisque qui sont des esprits, et dans certaines parties de Madagascar, ils se réincarnent dans certaines cultures, ils se réincarnent dans certaines personnes pour encore nous redonner des... comment dire ça, Anach?
C'est intraduisible, c'est tellement fort.
C'est un peu ça, nous instruire, nous guider. Nous guider.
Et en fait, c'est très important pour nous de respecter, en fait, les Razan, les ancêtres. Ça fait partie de notre culture. Ouais. Et ça fait partie de nous.
Moi-même, par exemple, je suis athée, mais je suis vraiment dans ce... C'est pas dans un truc spirituel, mais vraiment, c'est du respect, quoi. Du respect par rapport à ce qu'ils ont fait. Y a des gens qui ont lutté, qui sont morts pour toi, pour te laisser un héritage que là, maintenant, on commence à détruire. Et c'est cause à effet, ben voilà. C'est la musique, après. C'est pour ça qu'on sonne comme ça, en fait.
ce qui est formidable avec Loarano, c'est que la musique vous permet de voyager, vous permet de rencontrer des personnes, vous permet d'aller en Angleterre, en France, un petit peu partout. Est-ce que vous attendiez à ça? Est-ce qu'on... Quand vous avez commencé le projet tous les trois, avec la force que vous avez, avec la vitalité que vous avez, est-ce que vous attendiez à tout simplement vous exporter?
Pas vraiment au début, parce que au début le projet c'était pas un projet de carrière, c'était vraiment on avait tous nos groupes respectifs et on se rencontrait dans les concerts et moi j'ai envie d'approfondir un peu la musique en tant que telle, mais pas seulement faire du rock à chaque fois, tu vois. Et en fait, quand on discutait, on avait un peu ce projet en commun. Et on s'est dit, allez, on va faire quelque chose pour pouvoir apprendre et approfondir la musique seulement. C'était pour apprendre, en fait. Mais au fur et à mesure qu'on jouait, on est des rockers, quoi. Le rock, ça ressort à chaque fois. Et après, il y a eu un petit déclic avec White. C'était un petit déclic. Le premier morceau qu'on a sorti, c'était White. Et ça donne quelque chose de bien quand même, le rock, avec ce qu'on est en train d'apprendre là. Et on a commencé à creuser dessus et voilà, on est là maintenant.
Une dernière question quand même, une dernière chose que je voulais vous dire, c'est que d'abord, moi j'aime beaucoup votre force, parce que vous en amenez vraiment beaucoup de la force. On va vous voir ce soir sur scène. Vous allez vous produire dans un café ce soir, vous vous êtes produit sur des grandes scènes. On sent que vous n'avez aucune limite, que vous avez vraiment envie de porter le message. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous êtes à la fois très droit et très fou en fait. Il y a quelque chose il y a vraiment quelque chose des Stooges et des hip-hop chez vous.
Ouais, on est fou, mais quand on veut s'exprimer, il faut bien le faire, quoi. C'est comme un langage. Et on reste fou quand même, parce que la musique, ça fait partie de notre personnalité. Et on est comme ça. Voilà.
Cet album-là, il est disponible. On va pouvoir l'écouter. Maintenant, c'est quoi la priorité? C'est le live? C'est faire la promotion de l'EP? C'est quoi?
Ça dépend en fait du moment. Hein, mais. Tout est une priorité en fait, parce que ça n'a pas forcément le même impact. Parce que quand tu fais des lives, tu vas peut-être dans une ville et tout, les gens ils découvrent. Il y a des gens qui découvrent et il y a des gens qui viennent parce qu'ils connaissent peut-être. Mais la plupart du temps, quand tu fais des lives, les gens ils découvrent plus, quoi. Et faire. Et sur ce projet, sur cette EP-là, sur Pénoussi, c'est vraiment Pénoussi. C'est vraiment une continuité dans ce que nous on exprimait, quoi. Enfin, ouais. C'est une continuité de ce qu'on a déjà fait en fait. Voilà.
Ouais, après c'est un avant-goût du second album qui va dont on est en train de travailler dessus.
Bah voilà, c'est ce qu'on voulait savoir.
Voilà, je l'avais compris. Ouais, c'est bon, les concerts continuent et voilà, le projet continuera avec un second album qui sortira peut-être en début d'année. On l'annoncera en octobre. On verra ce qui suivra, mais voilà, un second album en route. Et
mesdames, messieurs, je ne parle pas le malagasy, mais j'ai envie de traduire Loarano par « on n'a pas de temps à perdre ».
terminons ce numéro avec la carte blanche de la semaine. Jordan de Radio Méga s'entretient avec Manon Cossignac, co-réalisatrice du documentaire La Cantatrice Chaume, une web-série qui se penche sur les enjeux de parité et de sexisme au sein des musiques actuelles.
C'était « There Will Be Blood » de Chloé Gallardo, extrait de son premier album « Defamator » qui vient juste de sortir chez Taxi Gauche Records. Pour la carte blanche du Dig Dig Diggers de cette semaine, je vous propose de continuer l'exploration des enjeux de parité et de sexisme au sein des musiques actuelles avec Manon Cossignac, qui est co-réalisatrice du documentaire « La Cantatrice Chaume », une web-série qui se penche sur cette thématique.
Salut Manon !
Salut !
Alors, ce que je te propose de faire pour commencer cette interview, peut-être, c'est de nous faire une genèse de la cantatrice Chaume. Comment ça a commencé et qu'est-ce que c'est exactement, en fait, ce projet d'épisode?
Ouais, et ben, en fait, il y a plusieurs points de départ qui ont amené à cette série documentaire La cantatrice Chaume. Un des premiers points, c'est que déjà on est trois sur le projet, donc il y a moi, Manon, il y a Florent Barallon et Germain Bachet. Florent et moi-même, on avait fait des études de discrimination et inégalité, c'était de la sociologie surtout. Et en fait, dans notre dernière année, Florent avait travaillé sur les femmes photographes et moi j'avais travaillé sur les normes relationnelles entre comédiennes et acteurs, actrices du milieu du théâtre. Et en fait, en croisant un peu nos données, on se rendait compte que ce qui se passait dans le théâtre, c'est ce qui se passait dans la photo, Donc, en fait, au niveau artistique, tout était lié. Et en fait, on se retrouvait, Germain, moi et Florent, autour de la musique. Et du coup, on s'est dit, si on applique un peu ce qui ressort de nos recherches, est-ce que c'est présent aussi dans le milieu musical ? Et en effet, c'est présent et en fait, c'est représentatif d'une société, mais amplifié parce qu'on est dans des milieux artistiques où des fois, on dit au nom de l'art, on ne questionne pas certains points, on met un peu certains événements et certaines problématiques en fait, sous le tapis, là où en fait, elles devraient être pointées du doigt. Donc ça, c'est un des premiers points. Le deuxième point, c'était que Germain et Florent avaient un webzine, donc ils partageaient des musiques de tous les pays, ils partaient de la lettre A, ils allaient jusqu'à la lettre Z, et l'idée, c'était de partager une musique de chaque pays. En fait, on s'est rendu compte que majoritairement, les artistes qu'on connaissait et qu'on mettait en avant, c'était des hommes. Donc on s'est bien rendu compte que là, au niveau rien que de nous, ce qu'on partageait, il y avait un problème. Et il y avait aussi, en fait, juste se rendre compte de qui passe la musique en soirée, entre copains et copines, en fait. Qui passe la musique ? C'est souvent les mecs. On a un groupe de discussion entre potes de musique. Qui osait mettre des musiques ? C'était souvent les mecs. Et en fait, c'est tous ces petits éléments qui ont fait que, il y a aussi une problématique là. On va mettre en documentaire un peu nos recherches. Et en fait, l'aspect documentaire nous permettait aussi de toucher un plus large public parce que c'est une forme qui est plus accessible à tout le monde par rapport à un petit papier qu'on avait écrit, type les mémoires de fin d'études, où en fait c'est très long et personne ne le lit. En tout cas, le public est assez restreint, là où le documentaire permet de toucher plus largement. Et l'aspect musique aussi nous permettait, par rapport au théâtre qui est quand même une espèce d'entre-soi, la musique touchait un peu plus de personnes au niveau du public. Et du coup, c'était aussi une possibilité de parler de quelque chose qui se passe au niveau de la société, en fait, avec un plus large public et de manière un peu plus fun. Quand, du coup, on fait des projections et que derrière, il y a un concert, enfin, il y a une discussion entre, mais que derrière, on finit sur un concert, on peut continuer la discussion, mais dans une espèce d'ambiance un peu festive, en fait. Donc, finir sur une bonne note.
En fait, ça a été pour vous une manière de continuer vos études, de continuer vos recherches, en fait, parce que ça a ouvert un vrai un sillon, quoi, avec plein de nouvelles découvertes.
Oui, c'était, en fait, peut-être même faire ressortir ce qu'on avait étudié plus largement, en fait, et pouvoir toucher plus largement les personnes. Après, ça coïncidait bien aussi avec... le après-midi, la société qui se mettait en mouvement, la musique, pour le coup, qui était un peu plus intéressée par ces questions que le milieu du théâtre. Enfin, moi, du coup, à l'époque, quand j'ai travaillé sur le théâtre, c'était beaucoup plus fermé sur ces questions. Là où la musique commençait un peu plus à s'interroger. Donc, ça coïncidait mieux, en effet.
Et alors, est-ce que ça a changé ta vision du féminisme, peut-être ? Est-ce que ça a fait évoluer ton esprit, ton âme féministe ?
J'avoue qu'en fait, pendant mes études, du coup, on avait quand même bien déconstruit toutes les inégalités et discriminations. Et du coup, moi, ma vision du féminisme, c'était un féminisme intersectionnel. Après, je reste une femme blanche, donc plus privilégiée que d'autres personnes. Mais en tout cas, j'avais envie que ce féminisme, il prenne en compte d'autres critères de discrimination aussi. Moi, c'était ça que j'avais beaucoup questionné du coup pendant mes études. Donc, je suis pas sûre que ça ait fait évoluer mon féminisme. Par contre, aujourd'hui, et c'est d'actualité, ce qui me fait me questionner sur mon féminisme, c'est peut-être Adèle Haenel qui du coup sort du milieu du cinéma et je me dis, c'est complètement raccord, mais d'un autre côté, on fait quoi ? Enfin, je comprends sa position de « je sors du milieu » parce que en fait, ça bouge pas. Mais de notre côté, quand on aime le milieu, comment on fait ? Enfin, voilà. Donc, j'ai envie de le faire bouger, et du coup, par ces documentaires.
C'est ça, là, maintenant, en fait, tu as ouvert une porte. Il y a trois épisodes, hein, de la cantatrice Chaume.
Ouais, alors, à l'origine, du coup, on voulait faire trois épisodes. Donc, un épisode sur les artistes, un épisode sur les professionnels, du coup, ils sont plutôt dans l'ombre, et un épisode sur les publics, histoire d'avoir une vision à 360 un peu de ce qui se passe. Du coup, les épisodes 1 et 2 sont réalisés et sont projetés un petit peu partout en France, mais l'épisode 3, c'est un gros point d'interrogation parce qu'on est bénévole sur ce projet du coup depuis 3 ans. Moi, j'y suis à plein temps et c'est compliqué de trouver des soutiens financiers et on peut pas continuer ce travail bénévole, même si les structures nous aident en payant des droits de diffusion, ça nous permet en fait de rémunérer les artistes qui nous ont fait la musique jusqu'à présent, de rémunérer la graphiste, la comédienne qui nous fait la voix off, mais ça permet pas en fait d'envisager de réaliser un troisième épisode. Donc c'est le gros point d'interrogation. Cette année 2023 sera un peu le point de bascule en fait de est-ce qu'on peut continuer ou pas, sachant que s'il y a possibilité de continuer, j'aimerais du coup plus m'arrêter finalement à un épisode 3. Aussi, je ne sais pas dans quel ordre, mais aborder la question des personnes en situation de handicap et leur accès difficile à et le public et la scène. Aborder plus peut-être l'écologie avec la musique. Je sais que c'est une question qui est très présente et voilà, peut-être pour nous, l'idée du documentaire, c'est d'apporter des pistes de travail à des structures. Et du coup, de mettre en avant des exemples. Donc peut-être que ça peut être ça aussi. Il y a des recherches qui ont été faites et des salles qui ont mis en place des éléments pour l'écologie, pour avoir moins d'impact. Et donc voilà, peut-être proposer des pistes de solutions à d'autres structures. Et j'aimerais bien aussi faire en fait vraiment un épisode porté sur les personnes transgenres et non-binaires. Parce qu'en fait, les personnes qui interviennent dans le documentaire sont plutôt cisgenres. Et en fait, il y a une réelle absence sur les grands festivals, sur les scènes des grands festivals, les grosses programmations, il y a une réelle absence de diversité, en fait, plus largement. Donc, ce serait... Et c'était pas question de traiter pendant 3 minutes, en fait, dans un documentaire. Je pense que là, c'est vraiment un sujet qui est plus complexe et qu'il faut prendre... les bonnes 40 minutes pour le traiter.
Alors, on se rapproche de la fin de cette interview. 10 minutes, ça passe hyper vite. J'aimerais te demander si le fait d'avoir fait ce film, est-ce que ça, tu peux constater déjà que ça a fait changer des choses ou que ça a généré, par exemple, je pense à une artiste comme Caval qui une fois qu'elle a eu vu le premier épisode de La Cantatrice Chaume, s'est tout de suite dit, mais moi, je vais monter un collectif pour rassembler toutes ces personnes qui sont exclues. Et elle l'a fait, elle a monté ce collectif Trajectoire. Je l'avais reçu pour une carte blanche, pour l'affaire Arok. Est-ce qu'il y a d'autres comme ça, initiatives ou mouvements que vous avez pu constater suite à La Cantatrice Chaume?
Je sais pas si c'est lié à La Cantatrice et je veux dire que je verrais ça un peu trop prétentieux de dire que c'est parce que c'est La Cantatrice. Après, il y a plein d'initiatives en fait qui se créent autour du milieu artistique et culturel et dans la musique notamment. Et toutes ces initiatives sont trop bien. Et je pense qu'il faut en fait toutes les utiliser et pas en utiliser une ressource et se dire c'est bon, j'ai mis ça en place. Je pense qu'elles sont toutes différentes et toutes complémentaires, et que mon documentaire, il peut être intéressant pour certains points, mais qu'il y a d'autres actions comme Consentis, comme ActWrite, qui sont ultra importantes et qu'en fait il faut cumuler toutes ces ressources incroyables et diverses. Voilà, donc rien de, je sais pas, rien de là me vient à l'esprit, mais en tout cas il y a, ça bouge.
Ouais, vous avez apporté aussi votre pierre à l'édifice et vous avez contribué à ce que à essayer de faire en sorte que les choses soient sues et que au-delà du fait de simplement le savoir, on puisse se bouger, se rencontrer et se solidariser.
C'est ça en fait, déjà juste ces moments comme fait par exemple Adriana, elle monte des actions qui s'appellent Les Femmes S'Engagent, avec Les Femmes S'En Mêlent, et en fait ça permet de réellement faire rencontrer les acteurs et les actrices qui portent des missions, des actions, ou des outils, ou simplement qui ont envie en fait de se retrouver, et cette rencontre, ces moments de rencontre sont en fait sont nécessaires et incroyables en fait. parce qu'on en ressort, je viens du sud, donc j'ai que le mot du sud qui va me venir, mais on en sort requinqué en fait.
C'est bien requinqué, c'est bien. Bah, on se laisse peut-être sur ces derniers mots, ça nous requinque, on en a fort besoin.
Merci pour l'accueil.
À une prochaine, Manon. Ouais.
Salut.
Pour plus d'infos sur la cantatrice Chaume, rendez-vous sur Insta, la cantatrice Chaume tout attaché. On se quitte avec le titre Talis Qualis de Calling Marianne, choisi par Manon.
D'avoir écouté Dig Dig Diggers, l'émission des radios Ferrarock. Cette semaine, nous vous présentions The Future is the End, premier album de Cemented Minds, sorti le 19 mai chez Floral Records, ainsi que le nouvel EP de Lou Arano, nommé Benoussi, sorti quant à lui sur Vicer Records le 26 mai dernier. Toute information à retrouver sur le www.ferrarock.org. Concernant la série documentaire présentée dans le cadre de notre carte blanche, retrouvez plus d'informations sur les réseaux sociaux de la cantatrice Chaume.